Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on rentre dans l'intimité de la vie de couple avec le sociologue et directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Kaufmann. Dans son dernier livre, « Pas envie ce soir », aux éditions Les liens qui libèrent, l'auteur décrypte l'articulation du désir entre l'homme et la femme et la question du consentement dans le couple. Dans cet entretien, Jean-Claude Kaufmann décrit l'évolution des mœurs dans la sexualité et son impact dans la relation, les écueils à l'épanouissement et à l'expression du désir féminin, et il explique pourquoi la situation conjugale amène à l'infidélité et le carcan monogamique au polyamour. Alors, bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le quotidien et l'intimité dans la vie conjugale. Vous publiez aujourd'hui « Pas envie ce soir » aux éditions Les liens qui libèrent, où vous dressez une enquête éclairante sur le consentement dans le couple. Alors, moi, je suis très curieuse de savoir ce qui a motivé l'écriture de ce livre, parce que le consentement dans le couple...
Oui, d'où ça vient ce
sujet. D'où ça vient, oui. et comment vous avez procédé pour nourrir cette enquête dans laquelle vous nous emmenez?
Alors, mes sujets, moi, souvent j'aime bien prévoir mes sujets à l'avance, bien les construire, etc. Et puis parfois il y a des choses qui me tombent dessus, c'est l'actualité des événements. Et là c'est un événement, c'est l'affaire Weinstein, c'est MeToo. Parce que dès le début j'ai été convaincu que d'une part c'était quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, mais que ça n'allait pas être si simple que ça. Et que ça prendrait beaucoup de temps de changer les attitudes, parce que depuis des siècles et des siècles, les rituels de séduction entre l'homme et la femme consistaient pour l'homme à forcer un petit peu les barrages, les défenses qui étaient mises en place par les femmes. Et l'art féminin était de céder que progressivement, même si le désir était là. Alors d'un seul coup, MeToo révolutionne totalement cette histoire-là. Il faut partir du consentement des personnes, alors que les échanges dans la séduction, les premiers gestes amoureux ne passent pas toujours par la parole, passent parfois par les gestes, par les baisers, parfois les baisers volés. Alors les baisers volés, j'ai pensé à un moment faire mon livre ou une enquête sur cette question-là, parce que je me suis dit dès le début, chaque question va être très complexe à creuser et à définir. Le harcèlement dans le monde de l'entreprise, c'est pas comme le harcèlement de rue, et c'est pas comme ce qui se passe dans le couple. Or, le couple, moi, je connais bien, c'est mon sujet d'enquête depuis très très longtemps, donc je me suis dit, c'est là que je vais enquêter. Et tout de suite, ça fait un peu bizarre, on se dit, mais consentement, ça existe, ça? Ben, justement, s'il y a une révolution MeToo, ça doit aussi se poser dans le couple, on doit poser la question du consentement et la question de savoir comment ça se passe dans l'articulation du désir de l'un et du désir de l'autre. Est-ce que c'est toujours harmonieux? Dès que je suis entré dans l'enquête, j'ai vu que c'était pas harmonieux du tout.
Oui, justement, dans l'enquête, vous pointez du doigt un certain nombre de fables que la société se raconte, comme la fable de la sexualité épanouie ou encore celle de l'égalité. Y a-t-il un mal-être sexuel en France?
Oui, alors ces fables, elles ont une part de vérité et en même temps elles sont utiles. C'est bien de se raconter des fables, on en raconte aux enfants des fables. C'est lancer dans un univers de désir la fable. Mais par contre, il ne faut pas prendre la fable pour de la réalité. C'est ça qui est extrêmement important. C'est bien les fables, mais il ne faut pas que ça fasse croire que la réalité est comme ça. La femme de la sexualité épanouie, elle a un rôle extrêmement utile parce que Il y a un siècle, la sexualité, elle n'était pas épanouie du tout. À l'époque de Freud, tout ce qui touchait à la sexualité, c'était dans l'univers des interdits, des mystères, des angoisses. Ça provoquait les névroses, c'est ce qui a donné beaucoup de travail à Freud. Et par rapport à cette époque-là, on a vraiment avancé, on arrive à en parler. On en parle plus facilement dans les médias, dans l'espace public. À l'intérieur du couple, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et là, on est très loin de cet épanouissement et de la facilité de parole par rapport à la sexualité. Et si on se dit, ça c'est un grand constat que j'ai eu dans l'enquête, si on se dit que tout autour de soi, chez les amis, chez les copains, chez les copines, la sexualité est performante, épanouie, que dans les couples on en parle facilement, tout de suite on se dit, bah, chez moi ça va pas. Chez moi dans mon couple, ou chez moi dans mon corps, c'est de ma faute. J'ai découvert une culpabilité énorme qui incite d'ailleurs à se forcer quand on n'a pas de désir, quand on n'a pas envie. Parce que la première raison, c'est de se dire « c'est de ma faute, donc je dois payer d'une certaine manière ». Alors là, il faut lever ce tabou, et là, la fable qui a été trop loin, elle crée de la souffrance, elle fait du mal. Donc un peu de fable, c'est bien, mais il faut partir un petit peu des faits et de la réalité aussi.
Le mythe de la sexualité épanouie, il est uniquement, la question se pose uniquement au féminin ou
La sexualité, c'est plus facile pour les hommes, surtout qu'ils continuent à être en situation un petit peu de confort et de domination dans le couple aujourd'hui. Parfois, ils ne veulent pas voir les signaux qui sont envoyés par les femmes, parce que les femmes parlent, exprime un non-consentement, mais avec des signaux faibles et souvent en ne le disant pas, simplement par le corps. Hein, le corps qui se retourne ou qui reste très passif. Je fais la morte. Donc, ces femmes qui disent « je fais la morte », pour elles, elles ont envoyé un message. Absolument, je te laisse faire, mais c'est un peu contre moi, parce que j'ai pas de désir. En fait, c'est un message de non-consentement. Et face à cela, il y a des hommes qui ne veulent pas voir, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne comprennent pas, qui se disent, ils sont un peu déçus, c'est pas terrible, mais c'est comme ça que ça marche. Là, je découvre aussi, en dehors de la culpabilité, tout un espace de non-dit, de refoulement, avec derrière des insatisfactions et des souffrances. Alors du côté masculin, il n'y a pas un épanouissement total, parce qu'il y a aussi beaucoup de frustration. Très souvent, il désirerait faire plus souvent l'amour. Ils sont déçus que ce soit pas plus fréquent, et ils l'interprètent comme un rejet de leur personne, ce qui n'est pas toujours totalement faux, parce que des fois, après 10 ans, 20 ans de vie commune, le partenaire conjugal est devenu un petit peu moins sexy, vachi dans son canapé, face à un match de foot, etc., etc. Et comme un rejet, comme un désamour, une marque de désamour, comme un affaiblissement du vécu conjugal en son cœur, en son centre. Or, la plupart du temps, ce n'est pas ça du tout. Là encore, nouvelle incompréhension. Parfois, le fait que chez des femmes, il y ait moins de désir, c'est un signe, l'indicateur que ça ne va plus trop dans le couple. C'est ça qui commence à leur dire. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça du tout. Et elles le disent, j'aime. Elles emploient ce terme-là. J'aime mon partenaire. Je suis bien avec lui, on est bien ensemble, on rigole, on passe de bons moments. Etc. Il y en a même certaines qui disent « il est beau ». C'est quand même tout à fait étonnant. Mais pour le désir, ce n'est pas ça. D'où une incompréhension d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose-là? Mais ce n'est pas une marque de désamour, alors que pour les hommes, c'est vécu comme ça.
Alors comment ça se gère ça dans le couple? Alors vous disiez tout à l'heure en off qu'il y avait plusieurs graduations de situations et de vécu en termes de rapports non désirés. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus?
Oui, alors il y a toute une série de graduations. Alors, déjà pour préciser, dans tous les couples, ça ne se passe pas de la même manière. Parfois même, il y a très souvent un décalage des désirs. Puis le décalage des désirs, ça dépend des moments. Le désir peut être là un moment et puis disparaître un petit peu après. Un qui a plus envie à un certain moment et l'autre à un autre moment. Donc ça, c'est extrêmement variable également. Et parfois, c'est régulièrement la femme qui a plus de désir que l'homme. Ça existe aussi, cette situation-là. Je ne peux pas chiffrer avec ma méthodologie, mais disons de l'ordre de 10% des cas, il y a cette situation qui existe aussi. Mais dans la majorité des cas, de manière assez massive, c'est du côté féminin qu'on va observer une baisse du désir. Alors, pas tout le temps, pas systématique. C'est à mesure que le couple s'installe dans ses meubles. C'est là qu'il se passe quelque chose. C'est pas dans le corps des femmes. Lors des premières rencontres aujourd'hui, il y a vraiment une expression du désir féminin qui s'est développée. Et puis il y a eu une plus grande attention à leur corps, au mécanisme du désir, etc., qui fait que ça, au début, ça marche plutôt bien d'une certaine manière. C'est après qu'il va se passer quelque chose, notamment avec l'arrivée de l'enfant, mais ça a commencé avant l'arrivée de l'enfant. C'est là qu'il va y avoir une diminution très variable selon les femmes. Pour certaines, c'est un petit peu moins de désir. Pour d'autres, et ça c'est particulièrement pénible pour ces femmes parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi, une chute vertigineuse de ce désir, donc qui va les inciter. Comme elles se disent que c'est de leur faute, qu'elles sont coupables, elles se sentent obligées de se forcer un petit peu et de ne pas le dire, et de ne pas exprimer leur non-désir. D'abord pour la raison de la culpabilité, c'est de ma faute, et également par peur des répercussions que ça pourrait avoir. Je vais le frustrer. Si on est en couple, c'est pour faire des concessions. Des fois, on n'a pas envie de tout, on n'a pas envie de faire le ménage, mais il faut le faire quand même. Souvent, j'ai eu la comparaison avec les activités ménagères. Pas trop envie, mais il faut le faire, donc je me force un petit peu. Alors là, on est dans le premier degré, c'est vraiment des fois un petit peu, pas trop envie, mais. Et puis, des fois même. Le désir peut venir à partir des premiers échanges, des préliminaires, etc. Donc c'est oublié à ce moment-là, ce moment de manque de désir un petit peu initial. Puis il y a le degré supplémentaire, oh, ah, ça revient encore, c'est pas possible. Et là, vraiment pas envie, il faut vraiment se forcer, voire rentrer dans une pratique de simulation, parce que c'est très répandu quand même aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un problème, c'est vraiment pas sain, cette situation-là. Et puis, on peut monter encore d'un degré où la femme rentre dans une véritable souffrance, quoi, à ce moment-là. Donc là, on est à la situation donc, où il est vraiment grand temps de parler, de le dire. Et dans tous les témoignages que j'ai eus, il y a eu le même constat en regardant a posteriori ce qui s'était passé avant. Ah, j'aurais dû réagir plus tôt. C'est-à-dire, au début, se forcer un peu, ça peut ne pas être un problème. Le risque, c'est que si la situation s'aggrave et qu'on a de moins en moins envie et qu'on se force de plus en plus, l'habitude aura été prise de ne rien dire et il sera de plus en plus difficile de parler alors que l'on rentre dans une grande souffrance. Et le dernier degré, je ne sais pas s'il faut en parler, mais là, c'est quand même, c'est dans l'enquête, c'est dans les chiffres qui existent aussi. Il y a des viols, il y a des viols très durs même des fois. Les viols sont toujours violents, mais là, des viols avec violence, méchanceté, etc. 31 des viols dans le couple qui sont totalement impuni, presque totalement impuni.
Oui, vous dites 31% des
viols. De l'ensemble des viols.
Sont faits par le conjoint.
Sont faits par le conjoint. Et c'est sans doute un chiffre minimum, il est sans doute plus important, parce qu'il est basé sur le dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte, quand c'est le viol par le partenaire conjugal, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que la police, la justice n'ont pas l'habitude de ça. Un viol, la plupart du temps, c'est parole contre parole. Mais dans l'espace de l'entreprise et tout ça, parfois il peut y avoir quelques vagues témoins qui ont appris ceci, cela, on trouve des traces, il y a des SMS, on peut revoir, etc. Dans le couple, rien. Rien du tout. Et le récit que je donne un exemple là de Anema qui a déposé plainte, et sa plainte n'a pas été reçue parce que le policier a cru au récit du mari qui a inventé une histoire de sadomasochisme, etc., qui n'était vraiment pas la réalité parce qu'elle a subi, elle, de plein fouet une agression qu'elle n'a pas comprise, qui était extrêmement destructrice. Donc il se passe des choses, alors pas dans tous les couples, faut pas mélanger toute la zone grise où on ne se comprend pas, où on ne comprend pas les signaux de l'autre, le manque de désir, où là il va falloir travailler ensemble dans le couple pour parler davantage, pour exprimer davantage les désirs, les non-désirs de l'un et de l'autre. Et puis, ne pas confondre ça avec la situation au-delà de ce que j'appelle la ligne rouge, où là il y a des agressions, des viols, et où c'est pas seulement dans le couple où il va falloir progresser, c'est aussi au niveau de la police, de la justice, des associations de soutien, etc., pour faire exprimer ces situations difficiles, quoi.
Et est-ce qu'il y a une explication, ou alors peut-être vous savez comment expliquer cette baisse de libido chez les femmes après un certain temps de vie commune, est-ce qu'il y a une explication anthropologique?
Il y a jamais une seule explication comme ça. Il y a toujours un faisceau d'explications. Beaucoup de femmes expriment que c'est la routinisation. On ne peut pas empêcher la routine, un minimum de routine dans un couple, parce que c'est ce qui rend la vie un petit peu confortable. J'avais fait une enquête sur leur passage, par exemple. Il n'y a pas deux personnes qui repassent les mêmes choses avec des durées incroyablement différentes. Pourquoi repasse-t-on des torches? Pourquoi telle personne repasse-t-elle les torchons, par exemple? Si je pose la question, j'ai d'abord 3 secondes de silence dans la réponse, et puis la réponse m'arrive, c'est parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a inscrit une évidence en soi, et puis on fait fonctionner le bouton de la routine. Parce que si on doit rentrer dans un débat philosophique de 3 heures pour savoir si on doit repasser ou pas les torchons, l'essentiel des gestes de la vie quotidienne fonctionne comme ça, sur des petites évidences incorporées et sur des petites routines. Donc on ne peut pas empêcher qu'il y ait un minimum de routine, y compris d'ailleurs dans les gestes de la sexualité, il y a quand même beaucoup de routine. Le problème, c'est quand la routine devient complètement envahissante et quand il n'y a pas l'autre temps de l'existence, c'est-à-dire le temps de la présence forte, de l'attention à l'autre, de l'interrogation sur les attentes, les désirs, les non-désirs de l'autre, etc., les moments de rupture, de surprise, de communication. Ça ne peut pas être tout le temps ça, parce que la vie conjugale serait un petit peu épuisante, du coup, mais il faut jouer sur ces deux temps. Le temps un petit peu de repos, repos sur un peu les routines, le fonctionnement qui va un petit peu de soi, et puis les petits moments de rupture et de surprise. Donc il y a cet élément-là. Et puis l'autre élément essentiel au niveau féminin, c'est le jeu de rôle à l'intérieur du couple. À mesure que le système ménager et familial se densifie, que les tâches deviennent plus nombreuses, plus sophistiquées, il y a un jeu de rôle qui fait, encore aujourd'hui, on est très loin de l'égalité du partage. C'est d'une part un héritage historique, et c'est d'autre part lié au jeu de rôle actuellement dans la famille. Les femmes sont en première ligne, parce qu'elles ont des attentes très forte dans tous les domaines. Elle fixe les exigences assez hautes, c'est elle les stratèges, les responsables. Il faut que ça avance. Je dirais dans la famille, dans tous les domaines, la tenue de la maison, les attentes par rapport au fonctionnement conjugal, les enfants, dès que les enfants sont là, et vis-à-vis des enfants, non seulement les femmes vont avoir un suivi très très fort, mais elles vont être aussi porteuses des risques et des angoisses possibles, tout ce qui pourrait arriver à l'enfant, alors que l'homme va plutôt... Une phrase très masculine qu'on entend souvent, c'est pas trop grave, faut pas se prendre la tête. Il va tordre dans l'autre sens, dans le sens de la décontraction et du bien-être immédiat. Donc, les femmes vont être au centre par leur corps, parce qu'elles font l'essentiel des tâches ménagères, et par leur esprit, c'est-à-dire qu'elles ont la famille dans la tête, d'où la charge mentale, dont on a beaucoup parlé, et comme elles ont cette tête un petit peu remplie, après, avec plein de choses, donc une certaine fatigue, plus des éléments d'angoisse, de stress, elle porte tous les risques possibles qui peuvent exister dans la famille, elles n'ont pas la disponibilité, il faut être disponible pour que le désir apparaisse, alors que justement, les hommes sont dans cette situation-là. Et ça commence avant l'arrivée de l'enfant, et après l'arrivée de l'enfant, il y a encore un cran supplémentaire, d'une part parce que les charges ménagères et familiales augmentent encore de manière considérable, et puis elles ont encore plus la tête ailleurs d'une certaine manière, parce qu'il y a la tête avec l'enfant, bien sûr, qui est là. Alors, j'ajoute quand même que il n'y a pas comme ça une baisse du désir féminin et puis qui serait définitivement déclinant. Il peut y avoir des moments de rupture, des moments de surprise, et il peut y avoir aussi la rencontre d'un autre partenaire qui souvent n'était pas programmé, pas prévu, d'un amant qui révèle que le désir n'était pas mort du tout, qu'il ressurgit, et c'est un bonheur très, très fort, une déculpabilisation de sentir ce corps qui renaît. Donc ce n'était pas de sa faute, c'était bien la situation conjugale qui faisait que ce désir avait diminué.
D'ailleurs, vous parlez du polyamour, donc c'est quoi ? C'est une voie pour aujourd'hui,
Alors, c'est les solutions aux problèmes ne sont pas faciles. Le polyamour, c'est très à la mode là aujourd'hui. C'est une solution alternative un peu rêvée chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. On se dit pourquoi pas ne pas être enfermé dans ce carcan monogamique qui risque de nous enfermer dans une certaine routine et une déception qui peut tuer le désir d'une certaine manière. Alors ceci dit, le polyamour devient plus compliqué quand même quand il y a des enfants, par exemple. C'est plus facile dans la situation des débuts du couple par rapport à une forme légère du couple. Et très souvent, il y a une marge importante entre le rêve, l'aspiration, ça serait bien le polyamour, et la mise en pratique qui s'avère beaucoup plus difficile, qui bute sur des jalousies notamment, alors qu'on s'était dit que le modèle, on serait apaisé et serein avec ça, et puis on n'arrive pas à le mettre en pratique parce qu'il y a une nouvelle fonction du couple aujourd'hui qui est extrêmement importante et qui continue à se développer, c'est que le partenaire conjugal soit un thérapeute à domicile, notre premier fan, celui qui restaure l'estime de soi et qui nous remonte le moral. On est dans une société très destructrice de l'estime de soi, très agressive vis-à-vis d'une société de concurrence et d'évaluation systématique qui fait du mal psychologiquement sans cesse. Et dans le chez-soi, Normalement, le partenaire conjugal, c'est une oreille qui est à l'écoute. Et j'avais fait une enquête sur les repas le soir. Il y avait le repas le soir, très souvent le récit de journée avec tous les petits malheurs qu'on avait eus dans la journée, sur le lieu de travail ou autre, et le conjoint qui était compatissant et qui remontait le moral. Le partenaire conjugal, quand ça se passe bien, parce que quand on tombe sur un pervers narcissique, c'est exactement le contraire, quoi. Mais le partenaire conjugal, c'est celui qui dit « mais c'est toi qui as raison, mais bien sûr, tu as bien fait de faire ça, de dire ça », qui est à l'écoute. Donc le couple est fondé de plus en plus sur une relation de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle qui nécessite une certaine exclusivité. Et c'est pour ça que ça se combine assez mal avec le polyamour, quoi. Et quand on comprend cette fonction un petit peu cachée du couple, de restauration mutuelle de l'estime de soi, on comprend mieux pourquoi la mise en pratique du polyamour bute sur un certain nombre de limites aujourd'hui, quoi.
Très bien. Et d'ailleurs, vous, dans votre livre, très très vite, vous expliquez pourquoi la banalisation du porno, en quoi elle a abîmé aussi la relation intime.
Oui, et puis je dirais aussi tous les modèles, pas simplement d'épanouissement sexuel, mais d'injonction à la performance, quoi, d'une certaine manière, qui propage l'idée que partout autour de soi, ça fonctionne au maximum et que la sexualité est totalement centrale. C'est très variable, c'est à chaque couple de faire ses choix. Dans tout le système de valeurs qui structure le couple, il y a des choix extrêmement différents. Pour certains couples, la sexualité reste quelque chose d'important et de central après des années de vie commune. Pour d'autres couples, elle est presque toujours essentiel, central au début du couple, parce que la rencontre se fait de plus en plus autour de l'échange sexuel aujourd'hui. Mais par la suite, il y a plein d'autres choses qui rentrent en considération. Les moments de complicité, de tendresse, de bonne entente, de confiance mutuelle dont je parlais tout à l'heure, etc. Et la sexualité peut avoir gardé une place importante, mais qui n'est plus centrale du tout, avec en moyenne une petite différence entre les hommes et les femmes, parce que souvent les hommes souhaiteraient qu'elles gardent une place plus centrale qu'un certain nombre de femmes, pour qui ça pourrait être un moment en plus agréable, mais pas obligatoirement le centre le plus important du fonctionnement conjugal. Et du coup, cette impression que dans le reste de la société, c'est ce qui est un petit peu déterminant, central, là encore, ça culpabilise.
Ouais, voilà. C'est comme l'injonction au bonheur, l'injonction à la sexualité, la routine.
Alors, toutes ces fables dont je parle, c'est des bons messages. Ouais. C'est des messages positifs qui vont dans le bon sens. C'est l'emballement de ces fables, l'emballement et qui se transforme en plus en injonction, avec le fait de donner l'impression que tout le monde fait ça facilement et de manière ultra performante et maximum, ça crée de la souffrance et du malheur, hein, parce que c'est terrible pour l'estime de soi, hein, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Donc il est nécessaire de rétablir les faits. Dès le début de l'enquête, j'ai reçu ça continue. Des messages de remerciement sur deux points, hein. La déculpabilisation, ah, ça me fait un bien fou de découvrir ça, que c'est pas de ma faute, et le deuxième, c'est de rétablir un petit peu la vérité, les faits par rapport à la situation concrète, réelle des gens, quoi.
Eh bien, merci Jean-Claude Kaufmann. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Pas envie ce soir, le consentement dans le couple, aux éditions Les liens qui libèrent.
Vous avez Moi, je vous remercie.
Un dernier mot
Non, un dernier mot, c'est qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de décontraction. Hein, c'est extrêmement important. Et la grande leçon, c'est qu'il faut réussir à en parler dans le couple, beaucoup plus. Mais en même temps, ne nous mettons pas justement une nouvelle injonction, un nouveau modèle de perfectionnement. Parler de ça, c'est souvent très difficile. Donc si on a beaucoup de mal pour en parler, c'est normal. Il ne faut pas s'affoler non plus. Mais il faudra essayer de saisir l'occasion, un prétexte quelconque, pour une fois commencer à en parler un petit peu. L'important, c'est de commencer à en parler, d'ouvrir un petit peu la boîte à parole et à communication. Et souvent, ça va entraîner un engrenage positif. Donc là, encore une fois, avec des contractions, cette question de la communication, mais ça, c'est tout à fait certain. Il faut sortir du refoulement et du silence autour de cette question.
Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du dernier livre de Jean-Claude Kaufmann, Pas envie ce soir, aux éditions Les liens qui libèrent. J'espère à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.